Fréquence. Recherche. Reçoit le signal.
Des chercheurs.
L'émission qui questionne la place de la recherche dans notre société.
Un jeudi sur 4 à 20h.
Sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Recherche, l'émission qui décrypte la recherche et qui met en résonance les chercheurs et la société. Un jeudi sur 4 sur Radio Campus Paris 93.9. Toute cette année, vous allez pouvoir retrouver à ce micro des chercheurs et des chercheuses pour une discussion autour de ce qui fait la recherche en général. Ici, on ne va pas parler de nos travaux, mais de tous ces à côté, ces processus, ces quotidiens que les chercheurs partagent tous au-delà du domaine des institutions ou de leur communauté. Bienvenue donc à l'intérieur du système recherche, au micro des chercheurs qui questionnent leur profession et la place qui leur est donnée dans notre société. Aujourd'hui, on ouvre le volet de l'enseignement, car oui, et d'ailleurs à l'image de son ministère, recherche rime souvent avec enseignement. C'est même le nom d'une profession, celle d'enseignant-chercheur, ces professionnels qui assurent les cours dans nos universités et la formation des étudiants du supérieur. Aujourd'hui, quasiment tous les chercheurs et chercheuses du système public enseignent ou ont enseigné. Pourtant, ces activités qui requièrent des compétences sans doute complémentaires, nous allons le voir, sont tout de même très très différentes. Alors, pendant cette émission, j'aimerais que nous rentrions un peu plus dans le détail. Comment s'organise l'enseignement supérieur en France? Quel lien peut-on faire entre recherche et enseignement? Comment s'articule le quotidien d'un enseignant-chercheur? Quels défis restent à relever? Et enfin, que peut-on imaginer pour le futur de l'enseignement et de la recherche en France? Et j'ai le plaisir de recevoir au micro de Radio Campus Paris le professeur Édouard Kirlik, professeur d'université à Sorbonne Université, physicien, vulgarisateur, ancien directeur des licences et ancien directeur de l'UFR de physique de Sorbonne Université, aujourd'hui président de la Maison pour la Science. Professeur Kirlik, bonjour.
Bonjour.
Avec lui, nous recevons Juliette Fenogli, normalienne agrégée et aujourd'hui doctorante en chimie théorique, qui assure dans le cadre de son doctorat et de son contrat d'agrégée préparatrice une partie de la formation des élèves et étudiants de l'École normale supérieure, ainsi que la formation pour la préparation au concours de l'agrégation. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir à ce micro pour parler de ce sujet que vous connaissez bien puisque c'est votre métier. Aussi, pour commencer, j'aimerais vous inviter tous les deux à vous présenter et à nous en dire un peu plus sur les spécificités de vos fonctions pour que nous puissions peut-être comprendre ensemble comment s'organise aujourd'hui l'enseignement supérieur en France. Professeur Kirlik, je vous laisse commencer peut-être.
Je suis donc actuellement professeur des universités, mais avant d'arriver à ce statut, j'ai un parcours assez classique de doctorant qui a été ensuite agrégé préparateur à l'École normale supérieure, puis maître de conférence et enfin professeur. Donc au cours de toutes ces années, j'estime que j'ai pu évoluer dans mes fonctions et mes tâches. Donc professeur des universités, maître de conférence ont des fonctions assez similaires. Ils doivent assurer un mi-temps recherche et un mi-temps enseignement. Cependant, au cours des années, ces missions se sont enrichies. On nous demande aujourd'hui de nous préoccuper beaucoup plus de l'insertion professionnelle des étudiants et aujourd'hui aussi de faire des actions avec et pour la société, comme on dit, donc qui peuvent être des actions de médiation, mais aussi des missions d'expertise auprès d'entreprises, de collectivités, etc.
Donc finalement, un métier de professeur qui est très inséré dans la société, au contraire de ce qu'on imagine vaguement du professeur dans son grand amphi et qui ne voit que ses étudiants ou alors le fond de son labo.
Alors, on a tellement de missions qu'en pratique, c'est ce que l'on peut constater, au cours de sa carrière, on va sans doute se focaliser sur l'une ou l'autre. Il est difficile de les mener tout ensemble avec le même niveau d'engagement et de qualité. Déjà, enseignant, chercheur, c'était bien difficile. Alors en ajouter une, deux ou trois autres missions, c'est une tâche quasi impossible. C'est ce que nous permet malgré tout notre statut.
Et du coup, toi Juliette, au niveau du doctorat, est-ce que du coup on arrive à jongler avec l'enseignement et la recherche puisqu'on n'a pas encore les futures tâches du maître de conférence ou du professeur? Comment est-ce que toi, tu organises tes journées? Quel est ton statut et qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ton quotidien en tant que jeune enseignante-chercheuse?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon statut est un peu particulier, puisque ce n'est pas le statut de n'importe quel doctorant en thèse, puisque enfin, aujourd'hui, tout doctorant peut avoir des missions d'enseignement à travers ce qu'on appelle un monitorat. Donc ça représente une trentaine à une soixantaine d'heures équivalent TD. Moi, en fait, mon statut, il est vraiment... En fait, c'est un statut de prof agrégé dans détaché dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est ça, le statut d'AGPR, sur un CDD. Donc, en fait, c'est comme les profs agrégés détachés dans l'enseignement supérieur, on appelle ça des PRAG. Et les AGPR, ce sont les agrégés préparateurs, ce sont des PRAG, mais sur un contrat à durée déterminée. Donc, ça fait qu'en fait, ce type de poste, c'est un poste avec pas mal d'enseignement. Donc, notamment, en fait, théoriquement, la charge d'enseignement est la même que celle d'un maître de conférence. Donc, un mi-temps enseignement, en fait, et un mi-temps recherche. Après, en tant que doctorant, on doit quand même passer beaucoup de temps à approfondir notre sujet de recherche. Donc, on a une petite décharge d'une quarantaine d'heures pour avoir un petit peu moins d'un mi-temps en enseignement.
Donc, si tu nous donnes des chiffres là tout de suite, tu passes combien d'heures par an à être devant tes élèves et ça correspond à combien d'heures à préparer les cours par rapport à ce que tu consacres à ta recherche? Si tu arrives à peu près à nous donner des chiffres, ça donnerait quoi?
Alors, donc mon poste avec la décharge, ça correspond à 150 heures équivalent TD. Donc, en fait, une heure équivalent TD, c'est compté comme 3 heures de préparation, si je ne me trompe pas, pour le service. Donc, en fait, les heures équivalent TD, c'est les heures qu'on passe devant les étudiants. Ouais. Mais en vérité, c'est compté dans notre service avec 3 heures de préparation pour préparer les contenus.
Est-ce qu'on peut imaginer que maître de conférence, professeur, c'est à peu près ce genre d'heure de grandeur, une heure égale 4 heures, ou c'est un peu différent?
C'est exactement la même chose, parce qu'en réalité, c'est un forfait qu'on peut d'ailleurs expliciter à nos auditeurs. Le fonctionnaire doit 1607 heures de travail annuel à son employeur, l'État. 1607 heures, un mi-temps, c'est 800 heures. Vous divisez par 4, vous trouvez en gros les 200 heures qui sont la charge d'enseignement des anciens chercheurs et puis des agrégés préparateurs. Alors attention, les PRAG n'ont pas d'obligation de recherche, ils ont donc un service complet d'enseignement, ce qui fait qu'ils ont plutôt un service de 400 heures d'enseignement annuel à assurer. Alors c'est vraiment un forfait, parce qu'on peut toujours s'interroger, mais pourquoi ce facteur 4? En fait, il n'est pas bien maîtrisé, mais ça inclut tout. Ça veut dire que ça inclut la préparation, mais aussi la surveillance des examens, la correction des copies, les jurys. Là, voilà, c'est un forfait. Contrairement à ce qui se passe pour les agrégés de l'éducation nationale, où effectivement, en fonction de certaines missions supplémentaires, il aura une rémunération correspondante. S'il est professeur principal, il a quelque chose. S'il assure des heures dans une classe avec le bac au bout de l'année, eh bien, il a une heure supplémentaire, ce genre de choses. Nous, c'est vraiment le forfait.
Effectivement, à vous écouter, on a l'impression qu'on est presque mieux loti dans l'enseignement primaire. On en reparlera tout à l'heure. Là, je voudrais juste revenir. Donc, on a évoqué le statut de maître de conférence qui peut devenir ensuite ou pas professeur. On a évoqué le statut de PRAG, donc professeur agrégé. Mais il en a un troisième statut qui est donc le chargé de recherche puis directeur de recherche au CNRS ou dans les instituts de recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu la différence entre du coup les enseignants-chercheurs et ce qu'on appelle plus simplement les chercheurs?
C'est simple, hein, ils n'enseignent pas. Donc, dans leur mission principale, l'enseignement, même si c'est aujourd'hui de plus en plus valorisé depuis quelques années, ne fait pas partie de leur obligation. Donc, on peut parfaitement rester chercheur ou chercheuse toute sa vie sans enseigner. Il se trouve que l'institution promeut l'enseignement dans les carrières des chercheurs et des chercheuses, d'abord parce que ça aide bien les anciens chercheurs d'avoir cet appui-là, mais ça reste quand même un supplément. On ne peut pas dire que c'est constitutif de leur statut.
Et donc, par exemple, toi, Juliette, est-ce que tu sais si tu vas plutôt te diriger vers une carrière de maître de conférence professeur ou plutôt vers une carrière justement de chercheuse directe chargée pour le CNRS? Est-ce que tu as déjà une idée sur ça?
Alors, c'est un petit peu difficile à dire à ce stade, mais disons que pour avoir porté la double casquette enseignant-chercheur pendant une période assez intense, enfin, ma thèse n'est pas encore terminée, mais... En tout cas, je vois quand même bien à la quantité de travail et d'investissement à quoi ça correspond. Et donc, c'est ce que disait tout à l'heure le professeur Kirlik, c'est qu'aussi, c'est difficile de s'investir à fond dans les deux parties. Donc forcément, ça génère un peu de frustration quand on n'arrive pas bien à faire les enseignements ou pas bien à suivre finalement son projet de recherche. Donc c'est pour ça que le poste de maître de conférence, où on est encore à l'intermédiaire entre les deux, pour l'instant, je l'ai un peu laissé de côté et je me dirigerai plutôt vers une carrière CNRS avec des enseignements supplémentaires, mais que ces enseignements soient choisis et que du coup, que je choisisse de les faire et que je choisisse de m'y investir comme c'est nécessaire. En fait, je ne voudrais pas pouvoir faire des enseignements et ne pas être satisfaite de ce que je fais en enseignement.
Bien sûr, et te laisser le choix. Alors, je précise juste qu'on utilise le mot très souvent de CNRS, donc Centre National de la Recherche Scientifique, qui est donc l'institution en France qui coordonne les activités de recherche et qui donc est relativement détachée, on va dire, des universités. Ce ne sont pas les mêmes institutions, que ce soit bien clair. Par exemple, un exemple concret, c'est que lorsqu'on est employé par le CNRS en France, on peut aller dans un autre laboratoire, toujours sous les ordres du CNRS ailleurs en France, alors que lorsqu'on est professeur dans une université, a priori, on n'a pas cette même mobilité. Par exemple, vous avez rentré à Sorbonne Université, vous n'en êtes pas reparti.
Je n'en suis pas reparti parce qu'effectivement, je suis un agent de Sorbonne Université et s'il me prenait l'envie d'aller effectuer mes travaux de recherche et d'enseignement à l'Université de Montpellier, je devrais repasser un autre concours ouvert à l'Université de Montpellier et donc réussir pour pouvoir bouger.
Effectivement, donc vraiment, ça fait quand même une différence par rapport au statut de chercheur. Alors, je vous propose qu'on fasse tout de suite une petite pause musicale. On se retrouve dans 3 minutes. Vous êtes toujours dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris 93.9. Y'all niggas got me hot.
Vous venez d'écouter Calm Down de Anderson .Paak.
Vous êtes toujours dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris.
Les recherches et enseignements à notre micro. J'ai le plaisir d'avoir à ma gauche Juliette Fenogli, doctorante agrégée, et à ma droite Édouard Kirlik, professeur d'université à Sorbonne Université. À présent, j'aimerais prendre un peu plus le temps pour que nous puissions parler justement de ce lien qui a l'air fondamental mais qui n'est pas si évident entre recherche et enseignement. Effectivement, on a vu que l'enseignement prenait beaucoup de place dans vos activités professionnelles. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que finalement votre pratique de recherche bénéficie de vos activités d'enseignement et inversement ?
Alors tout d'abord, pour le point de vue de ce que peut apporter l'enseignement aux chercheurs, enfin, moi, je le vis dans ma pratique. Enfin, quand je prépare des présentations ou que j'écris des publications ou des revues, en fait, on doit faire preuve en tant que chercheur de pédagogie pour communiquer nos découvertes à nos pairs, notre savoir. Donc là, forcément, le fait d'avoir une expérience d'enseignants, bah, ça nous aide à faire cette pédagogie plus facile. Et aussi quand il s'agit de vulgariser qu'on fait à notre famille, par exemple.
Voilà, là-dessus, je suis absolument d'accord. C'est vrai que la pratique de l'enseignement change la donne. Hein. Des choses très bêtes, hein, que poser sa voix lorsqu'on s'adresse à un amphi de chercheurs et de chercheuses en congrès, on entend la différence entre ceux qui ont cette pratique, les anciens chercheurs, et les autres. C'est assez manifeste. Après, il y a plein d'autres avantages, me semble-t-il. Malgré tout, enseigner quelque chose, ça permet d'avoir une compréhension fine de sa matière. Et je dois bien dire qu'il y a un certain nombre de sujets que je n'ai compris. C'est une banalité de le dire, mais c'est la réalité, que je n'ai compris qu'en essayant de l'enseigner.
Comme quoi, finalement, l'enseignement permettrait de quoi clarifier, structurer ses propres connaissances.
Oui, puis ça permet de faire un second passage. Donc, on a eu le temps de décanter et puis et retravailler la matière même que l'on veut enseigner. Ça permet vraiment, me semble-t-il, d'avoir les idées plus claires, de comprendre où est l'essentiel de ce qui ne l'est pas.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, en justement préparant un cours ou même potentiellement à la suite de questions que peuvent soulever vos étudiants, de réaliser qu'en fait, vous n'aviez pas forcément cerné un aspect, un processus de la manière dont il aurait fallu ?
Alors, il se trouve que dans mes activités de professeur, je suis chroniqueur dans une revue qui s'appelle Pour la science, où chaque mois, avec mon ami et complice Jean-Michel Courty, on écrit une rubrique sur un sujet de physique au quotidien, on va dire, pour faire très simple. Ben, très, très régulièrement, on est étonné de ce que l'on découvre. C'est des sujets pourtant de physique de base. À chaque fois, on revient aux principes de base de la physique, la plupart accessibles au niveau licence, et on s'aperçoit d'une nouvelle manière de le regarder, d'une nouvelle manière de le présenter, d'une nouvelle conséquence qu'on n'a pas eu le temps de creuser lors de nos études. Et une des choses que je voulais rajouter, c'est que le métier la partie recherche, elle est quand même assez spécialisée. Moi, à titre personnel, je l'ai trouvée assez étouffante en réalité. Moi, j'aimais la physique dans sa globalité et ça me manquait, entre guillemets, de pas toucher un petit peu à tout. Et grâce à l'enseignement, donc moi je suis théoricien, je fais de la physique statistique, et bien grâce à l'enseignement, je peux faire de l'optique, de l'électromagnétisme, de façon régulière. Et ça, ce point, en fait, très égoïstement, c'est un des points très intéressants du métier d'enseignant-chercheur.
Moi, je suis complètement d'accord. Le fait de pouvoir balayer un spectre plus large en chimie dans les enseignements, ça apporte vraiment une satisfaction intellectuelle. Et c'est vrai que parfois, simplement en expliquant quelque chose à un étudiant, en fait, on va mieux comprendre soi-même parce qu'on va chercher à circonscrire quelque chose qui est complexe pour faire passer à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça va nous permettre aussi de mieux voir ce qui est important. Pas d'exemple particulier en tête, mais je ne serais pas étonnée que ça m'arrive un jour que dans une interaction avec un étudiant, ça me donne une nouvelle idée pour mes recherches. Parce que en fait, il va poser une question à laquelle j'aurais pas pensé. En fait, ça va déclencher une suite de questions, même pour ma propre recherche.
Juste un point. Il se trouve que moi, à titre personnel, l'intérêt de l'enseignement pour mon activité de recherche en tant que telle a toujours été, en revanche, extrêmement limité sur le sujet même de la recherche. On acquiert d'autres compétences, on va dire, effectivement. L'expression écrite ou orale, une espèce de clarté dans le raisonnement. Mais pour le travail même de chercheur, donc d'aller au-delà de ce qui est connu, moi, je n'y ai pas vu forcément un grand avantage. Mais ça peut être, disons, un sentiment qui n'est pas partagé.
Donc on n'intègre pas les résultats de sa propre recherche dans son enseignement ?
Alors, dans ce sens-là, ça peut se faire, mais ponctuellement, voilà, j'ai toujours été, c'est un débat qu'on a avec des collègues au niveau de la licence, quel est l'intérêt d'avoir un ancien chercheur pour enseigner au niveau licence ? Sans doute qu'on apporte des choses, mais malgré tout, je trouve que c'est une question qui peut se discuter. Parce que justement, on mène une recherche extrêmement spécialisée, donc qui n'est pas accessible au niveau licence. Certaines disciplines évoluent moins que d'autres. Par exemple, je pense qu'en biologie, d'après mes collègues, ils ont quand même radicalement changé leur manière d'enseigner la biologie en 20 ans. En physique, j'ai l'impression que ce n'était pas tout à fait le cas. On fait des aménagements, mais C'est une discipline dont le socle est institué depuis plus d'un siècle. Voilà. Donc, je ne suis pas certain qu'on ait un bénéfice au sens sur le travail même. Hein. Vous voyez, ce n'est pas sur la matière même que l'on étudie, que l'on enseigne ou réciproquement sur lequel on effectue sa recherche. Je ne suis pas sûr que ça se croise si bien que ça.
Effectivement. Mais il y a quand même une chose qui me paraît. Donc, on parlait justement des licences et peut-être on peut du coup découper, effectivement, puisque c'est le système français, licence, master, doctorat, découper en plusieurs parties l'enseignement. Parce que finalement, ce n'est pas du tout pareil d'enseigner au niveau licence que d'enseigner au niveau master. Et justement, moi, je me disais quand même que lorsqu'en particulier on s'adresse à des étudiants dans un master de recherche, est-ce que finalement être quand même dans la position de chercheur, ce n'est pas la meilleure manière de susciter l'intérêt pour la recherche ? Donc, que ce soit des étudiants en master qui veulent déjà, qui savent déjà qu'ils veulent se destiner à la recherche plus tard, mais même en amont. Est-ce que finalement des étudiants en licence qui ont en face d'eux un chercheur peuvent peut-être potentiellement se dire « Ah, mais c'est donc ça la recherche, est-ce que ça ne va pas attiser ma curiosité ? Est-ce que ce n'est pas une profession qui va m'intéresser ? Est-ce que ce n'est pas aussi simplement pour susciter des vocations aussi, qu'on ne va pas essayer d'avoir aussi un peu de recherche dès les niveaux de licence finalement ?»
Je pense que c'est quand même intéressant d'avoir une formation à la recherche au niveau licence, même s'il faut bien sûr que le socle, enfin l'objectif de la licence, c'est quand même de poser le socle des connaissances fondamentales en chimie ou en physique ou en maths, quel que soit le domaine. Mais ça peut être intéressant d'avoir quand même l'intervention des chercheurs, par exemple à travers des projets ou des immersions en laboratoire, pour aussi que les étudiants soient plus proches du monde du travail et puissent choisir leur voie. Et là aussi, où je trouve que c'est important d'avoir au moins, peut-être pas forcément des chercheurs, mais au moins des enseignants qui ont une expérience de recherche. C'est pour toutes les formations qui sont plus proches du monde du travail, donc par exemple dans les BUT, où on va avoir des étudiants qui... Enfin, dans les IUT, des étudiants qui préparent les BUT, qui ensuite vont aller travailler en entreprise. Ben, en fait, c'est bien d'avoir des enseignants qui sachent être au plus près des recherches actuelles et des besoins actuels des entreprises pour adapter leurs enseignements à la formation justement de ces jeunes qui vont aller plus vite sur le monde du travail que des étudiants en licence qui, eux, vont peut-être poursuivre en master. Et à ce moment-là, c'est plutôt en master que des enseignants-chercheurs doivent intervenir de manière plus souvent que des enseignants.
Effectivement. Donc, oui, parce que finalement, on se retrouve quand même avec des enseignants-chercheurs qui se retrouvent devant des étudiants, mais ce n'est pas forcément un métier qu'ils ont appris. Et donc, effectivement, les compétences du chercheur, donc les compétences de l'enseignant enrichissent la recherche, on l'a dit, avec voilà, ces soucis pour la pédagogie. Mais est-ce que, dans l'autre sens, c'est si vrai que ça ? Est-ce que finalement, les chercheurs qui ont été formés à la recherche, lorsqu'ils se retrouvent devant les étudiants, est-ce qu'ils ont eu la bonne formation ou est-ce que du coup, ils n'en ont pas eu ? Qu'est-ce qui manque à un jeune chercheur, un jeune doctorant qui se lance pour être maître de conférence, pour être un enseignant pertinent ? Et qu'est-ce qu'il a déjà et qu'est-ce qu'il n'a pas encore, à votre avis ?
Je voulais juste souligner que lorsque l'on regarde la manière dont on mène la recherche et la manière dont on enseigne traditionnellement en licence, ça n'a quand même rien à voir. C'est là où il y a une espèce de hiatus. Ça veut dire, en licence, on va trouver une organisation, j'imagine en chimie, c'est un peu comme en physique, avec des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques. À chaque fois, on va dire aux étudiants ce à quoi ils doivent réfléchir, on va leur poser des questions, voilà, on va les accompagner énormément. Dans le travail de recherche, on a une démarche tout à fait différente, puisqu'on doit se poser soi-même les questions, essayer de trouver les plus pertinentes possibles, les plus pertinentes pour sa communauté, et ensuite essayer d'avancer des propositions pour répondre à ces questions. C'est quand même assez éloigné l'un de l'autre. Donc, pour que ce que vous dites soit fructueux, il faudrait quelque part rapprocher les modalités d'enseignement des pratiques réelles des chercheurs et des chercheuses. À ce moment-là, il y aurait moins de différences et ça serait sans doute plus facile de concilier notre métier d'enseignement et notre métier de chercheur. Ouais, je trouve que l'appui par rapport à un professeur de classe préparatoire, et je parle avec précaution, il est vrai qu'au quotidien, on va pratiquer la démarche scientifique quand on est chercheur ou chercheuse. Donc, quelque part, ça doit transparaître dans nos enseignements, dans la manière de s'exprimer, de raisonner, d'aller d'un point à un autre. Là, c'est sans doute une grande vertu d'effectuer sa recherche à côté. Au-delà de ce qu'on a évoqué, ce à quoi j'ajouterais quand même, que quand même ça arrive de temps en temps, il y a des nouveaux concepts, des nouveaux outils que l'on va importer rapidement dans nos enseignements sans attendre une énième réforme des programmes de lycée ou des classes préparatoires ou le plan quinquennal de l'université. On est sans doute un peu plus agile vis-à-vis de ça, mais la grande plus-value, c'est ça. C'est on a un exercice régulier de la démarche scientifique. Et c'est ça qui devrait transparaître à travers nos enseignements.
Et sur ces mots, je vous propose une nouvelle pause musicale. On se retrouve dans 3 minutes sur Radio Campus Paris, dans Fréquence Recherche.
C'était Ennio Morricone avec Marcia degli Accattoni.
Vous êtes dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, pour parler recherche et enseignement, avec nous, nous avons le professeur des universités Édouard Kirlik et la doctorante agrégée Juliette Fenogli. Alors avant de reprendre cette discussion, j'aimerais vous faire écouter un extrait du journal télévisé de Toulouse qui date d'il y a tout pile 15 ans.
Enseigner ou chercher, va-t-il falloir choisir? C'est en tout cas l'inquiétude des 2000 enseignants-chercheurs de Paul Sabatier à la lecture d'un projet de décret. Ce projet, selon eux, va donner pouvoir aux présidents d'université de moduler leur temps de travail entre la recherche, l'enseignement et les tâches administratives, avec forcément une grande part d'arbitraire.
Alors que l'un des fondements de notre métier et du travail à l'université, c'est précisément d'associer recherche et enseignement vers une même finalité.
Avant d'accéder à des responsabilités au Parti Socialiste en décembre dernier, Bertrand Montubert était président cofondateur de Sauvons la Recherche. Pour lui, ce décret est simplement révélateur d'une politique gouvernementale de rigueur.
Et nous, ce dont nous avons besoin, si nous voulons pouvoir développer la recherche française, c'est évidemment avoir des conditions qui soient suffisantes en termes de temps pour pouvoir nous investir dans la recherche. Et ce qui va se passer, c'est exactement le contraire.
Ce reportage donc fait suite à plusieurs réformes dans les années 2000 qui ont engendré la formation de collectifs pour défendre le financement de la recherche française par les pouvoirs publics. En particulier, ce que nous venons d'entendre, c'est la mobilisation des enseignants-chercheurs en 2009 contre la réforme de leur statut lors de ce qu'on a appelé la réforme Pécresse. Alors aujourd'hui, l'actualité, c'est plutôt les coupes budgétaires de l'année qui vont effectivement impacter forcément le monde de l'académique en France et donc forcément l'université et les enseignants-chercheurs. Alors en une phrase, je voulais vous poser la question, 15 ans après, est-ce qu'on est au même point? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va mieux? Qu'est-ce qui va moins bien?
Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est qu'on n'a toujours pas atteint la promesse de longue date d'atteindre 3% du PIB pour le financement de la recherche. Ça n'est pas atteint. On stagne. Depuis 30 ans maintenant, on a pratiquement le même niveau de financement. Donc, malgré toutes les mobilisations qu'il y a pu y avoir, malgré toutes les réformes qu'il y a pu y avoir, le constat, c'est que les choses évoluent peu en termes de financement de la recherche. Le paysage s'est au contraire plutôt complexifié. Ça veut dire que pour les mêmes masses d'argent, j'ai l'impression que les manières de les obtenir sont devenues un peu plus compliquées qu'auparavant. Il y a plein de façons d'avoir sa recherche financée aujourd'hui, par contrat notamment, et qu'à la fin, vraiment sans polémiquer, j'estime qu'il y a effectivement un déficit de financement de la recherche publique en France, qui me paraît évident.
Et si l'on dissocie un tout petit peu la recherche en général, enfin si on précise plutôt entre la recherche en général et l'enseignement supérieur, comment impactent ces coupes budgétaires l'enseignement supérieur par rapport à la recherche? Est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à l'enseignement supérieur et aux universités du fait de ces coupes budgétaires et de ce manque de financement? Ou est-ce que finalement c'est plutôt la recherche fondamentale qui est impactée selon vous?
Je ne saurais pas répondre précisément à cette question. Je pense que la France, par exemple, elle est attachée à des grands programmes de recherche. Donc tout ce qui nous lie à travers des collaborations internationales, ça reste assuré. En gros, on ne peut pas y couper. En revanche, il y a peut-être d'autres actions qui en pâtissent. Après, on est quand même beaucoup passé sur la recherche sur contrat. Et les sources se sont multipliées. Donc je crois que la situation entre établissements peut être extrêmement hétérogène. C'est ça qui me frappe surtout. C'est qu'on a plutôt amplifié les différences au sein des établissements, entre établissements, au sein des équipes, en fonction des financements qu'ils peuvent ou pas obtenir à travers des contrats de recherche. Sachant qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par cette étape-là. Tout récemment, j'ai lu à ma grande surprise, donc l'État donne aux universités ce qu'on appelle un service pour charge de service public. C'est de l'argent qu'on donne pour assurer les missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'an dernier, ce budget-là était inférieur au salaire des fonctionnaires. Cela veut dire que ce que l'État donne aux universités ne couvre pas le salaire des fonctionnaires. Donc, comment est-il couvert? Justement, parce que les collègues sont lauréats de contrats, ils ramènent de l'argent à l'université, alors des contrats publics aussi, mais ils ramènent l'argent à l'université et c'est ça qui permet d'avoir des universités qui peuvent se chauffer, payer le reliquat de salaire, recruter des gens. Voilà, donc c'est une situation qui est quand même assez curieuse.
Donc la rémunération aujourd'hui d'un maître de conférence, d'un professeur n'est pas assurée 100% par son université?
Non, alors Comment ça s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure que l'État prend des mesures salariales, par exemple l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, ou bien l'augmentation des primes des anciens chercheurs, qui est une réalité hein, dans la loi LPR, hein, la loi pour la recherche, qui est passée il y a quelques années, en fait, il ne les compense pas. C'est-à-dire il n'ajuste pas automatiquement le budget aux mesures qu'il prend lui-même pour ses propres fonctionnaires. Et ben, ce qui fait que petit à petit... l'université dépasse ce qu'on appelle le plafond, dépense plus d'argent en masse salariale qu'elle ne reçoit de la part du ministère. Voilà.
Effectivement, on peut se demander comment est-ce qu'on peut enseigner et exercer sa profession sereinement dans ces conditions, si quelque part, pour assurer ne serait-ce que quelques activités de recherche à côté, il faut, entre guillemets, ne dépendre que de soi-même et aller chercher les contrats, monter les projets par soi-même et ne pas compter sur l'institution universitaire pour être accompagné dans cette direction.
En tout cas, c'est forcément source de frustration, et notamment pour les plus jeunes collègues, hein, où lorsque l'on s'installe dans le métier, où son réseau de collaboration n'est pas encore tout à fait établi, et très très vite, ça, le monde a totalement changé. Mes jeunes collègues sont très vite font des demandes de contrat, de financement, au dehors de ce que l'État verse au laboratoire ou à l'établissement. Quoi.
On devrait donc les appeler plutôt, au lieu de les appeler enseignants-chercheurs, de les appeler enseignants-chercheurs, chercheurs de contrat, finalement, ou administrateurs. Est-ce que, Juliette, tu as quelque chose à dire au sujet ?
J'aimerais ajouter que, du coup, là, on a beaucoup parlé de la recherche, mais par rapport à l'enseignement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de... En tout cas, il y a eu une vocation de l'État, avec la dernière LPR, d'investir plus dans la recherche, même si, clairement, c'est insuffisant et la recherche fondamentale est toujours à moins de 1% du PIB, je pense. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'enseignement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de vraie volonté de l'État d'améliorer l'enseignement supérieur. Et du coup, ça a plutôt renforcé l'écart entre la recherche et l'enseignement. Pour ça, j'ai deux exemples. On a parlé un petit peu des primes. Donc la prime d'enseignement supérieur, la prime pour les enseignants-chercheurs, donc les maîtres de conférences et les professeurs d'université, elle a été revalorisée pour atteindre, elle devrait atteindre en 2026 ou en 2027 6 000 et quelques euros. Et pour les professeurs agrégés détachés dans l'enseignement supérieur et les professeurs certifiés, elle devrait atteindre seulement 4 000 euros. Donc il y a un certain écart là-dessus. Et le deuxième exemple que j'ai, alors je ne sais pas si ça date de la dernière LPR ou pas, mais par exemple, les chercheurs ne payent pas la TVA pour l'achat de matériel et de produits pour les laboratoires de recherche, alors que pour les laboratoires d'enseignement, c'est le cas. Donc en fait, qu'il y a un manque de moyens qui est ressenti dans la recherche, mais je trouve que ce manque de moyens, il est encore plus prononcé pour l'enseignement supérieur.
Il y a eu néanmoins des appels d'offres dans le cadre des plans d'investissement à venir qui ciblaient l'enseignement dans le supérieur. Donc j'ai oublié, il y a tellement d'acronymes, il y a les SFRI, NCU, ces sigles-là correspondent à des appels d'offres de l'État pour des universités y ont répondu, y ont été lauréates. Simplement, voilà, ça introduit encore plus d'hétérogénéité entre l'établissement, parce qu'il y a ceux qui sont lauréats, ceux qui ne le sont pas. Et une fois que l'on est lauréat, il faut pouvoir mettre en place des dispositifs. En général, l'État ne supporte pas qu'on dise qu'on veut de l'argent pour de l'entretien, de la jouvence, tout ça, c'est des mots qui sont interdits, ce qui est incompréhensible. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un projet de jouvence, de salle de travaux pratiques. Donc il faut toujours inventer quelque chose de nouveau pour être lauréat. Et ce qui fait qu'on s'engage dans encore autre chose, et ça accroît paradoxalement l'attention qui peut s'exercer sur les anciens chercheurs. Parce qu'on est toujours invité à aller encore plus loin, proposer de nouvelles choses, alors même qu'on sent bien que notre cœur de métier n'est pas consolidé. C'est ce que tu disais à l'instant.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre stratégie des universités pour toujours baisser les coûts, c'est l'emploi de plus en plus répandu de vacataires. A priori, ce sont donc des personnes qui sont en contrat à durée déterminée uniquement pour des missions d'enseignement, et ce sont des pratiques ce sont des emplois qui sont de plus en plus répandus aujourd'hui dans les universités. Il y a de plus en plus de vacataires parce que ça coûte beaucoup moins cher à une université d'employer un vacataire que d'employer quelqu'un de permanent.
Oui, mais n'oublions pas l'hétérogénéité. J'insiste là-dessus parce que même au sein des établissements à Sorbonne Université, Il se trouve que, compte tenu du nombre d'étudiants et d'étudiantes en physique, pratiquement l'intégralité des enseignements sont assurés par des titulaires, anciens chercheurs, ou des doctorants et doctorantes. Dans d'autres disciplines, par exemple en informatique, où il y a effectivement eu à la fois un boom d'étudiants et étudiantes, et par ailleurs, il y a une telle demande dans le secteur privé pour des informaticiens et informaticiennes que le recrutement d'anciens chercheurs n'est pas aussi évident que ça. Et là, en revanche, ils emploient énormément de vacataires, même au sein du même établissement. Et puis après, je ne parle même pas de ce qui peut se passer en droit ou dans d'autres disciplines.
Oui, dans les sciences humaines et sociales, ou pareil.
Donc, il faut être prudent au sens où les situations entre les disciplines et entre établissements peuvent être quand même extrêmement différentes l'une à l'autre. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir un discours global. Oui, moi, j'ai le sentiment qu'on est sous-financé, mais dans le détail, voilà, la réalité, c'est que dans mon établissement, moi, j'estime que les anciens chercheurs en physique ne sont pas, voilà, ne croulent pas sur un surservice ou quoi que ce soit. C'est pas vrai.
Pour autant, vous avez donc parlé par exemple, du domaine dans l'informatique, qui est un exemple, mais il y en a d'autres, où du coup les jeunes doctorants ne restent pas, puisqu'ils vont plutôt aller partir dans le privé. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur donner envie de rester? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notamment revaloriser la recherche, mais plus exactement l'enseignement? Comment est-ce qu'on donne à des jeunes doctorants ou des jeunes post-doctorants cette envie d'enseigner? Comment est-ce qu'on revalorise finalement ce métier?
Alors pour moi, la réponse, il faudrait peut-être réformer le poste de maître de conférence. Et alors j'ai l'impression que là dernièrement, pour rendre la carrière plus attractive, ils ont mis en place les chaires de professeurs juniors. Donc, où l'objectif, c'est d'avoir un petit peu d'enseignement, enfin un peu équivalent à un monitorat, puisque c'est 64 heures, je crois, et d'ensuite accéder à un poste soit de professeur, soit de directeur de recherche. Donc j'ai l'impression que ça a été un petit peu la réponse du gouvernement pour rendre plus attractives les carrières d'enseignants-chercheurs. Après, en ce qui concerne de motiver les doctorants à faire de l'enseignement, ça, je pense que c'est déjà un petit peu le cas au travers des monitorats, que c'est quand même quelque chose qui est assez encouragé et que beaucoup de doctorants font finalement.
Oui, mais après, finalement, un monitorat, c'est quand même... Enfin, en tout cas, là, je parlais à la première personne puisque je suis moi-même doctorante et que j'assure moi-même un propre monitorat. C'est une activité qui est encouragée, mais ce n'est pas l'activité qui est la plus valorisée pendant mes trois ans de thèse. On va considérer ça plutôt comme une tâche secondaire. Et alors, je ne sais pas à quel point ça se perpétue, cette différence, en tout cas, cette priorisation des tâches entre l'enseignement et la recherche, mais... En tout cas, à mon niveau, par exemple, c'est pas sur l'enseignement qu'on met de l'accent et je ne suis pas venue pour enseigner, finalement. Je suis venue pour faire de la recherche.
Mais moi, ça me semble légitime que le doctorant ou la doctorante ait pour priorité de mener des travaux de recherche. Parce que, comme vous le vivez, c'est quand même très différent d'être étudiant ou étudiante, malgré tout. Et donc, que pendant plusieurs années, on ait cette priorité-là, moi, ça ne me choque pas du tout. Après, il faut avoir conscience que c'est un métier de frustré. Oui. Ça crée une tension entre ces deux missions principales qui perdurent toute sa vie. Toute la vie, on est à rechercher un équilibre entre recherche et enseignement qui devient de plus en plus difficile à tenir. Parce que la recherche au plus haut niveau, ça exige un engagement qui est presque total. La preuve en est de l'existence même de l'IUF, l'Institut universitaire de France, où on estime, entre guillemets, on récompense les plus méritants ou méritantes enseignants-chercheurs en les déchargeant d'enseignement. Puisqu'on divise par trois leur service, ils sont qu'à 64 heures, donc comme les moniteurs. Et pourquoi? Pour justement mener une recherche de qualité. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un moment donné où aller être au meilleur de sa recherche, ça nécessite beaucoup de temps, et du temps qu'on ne peut pas consacrer à l'enseignement, c'est tout. Et réciproquement, quand on veut vraiment changer ses pratiques d'enseignant, là encore, le temps est considérable. Et ça devient, à contrario, difficile de maintenir une activité de recherche satisfaisante.
ce que j'allais dire. Donc finalement, si l'IUF est là pour permettre à des chercheurs de se consacrer corps et âme à la recherche, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un espace pour les enseignants-chercheurs qui veulent à un moment prendre ce temps de se consacrer plus à l'enseignement et de valoriser plutôt cette tâche-là plutôt qu'une autre ? Parce que finalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la valorisation de la recherche dans un sens et pas la réciproque dans l'autre.
Bah dans ce cas-là, c'est plutôt les postes de Prague. Mais alors, je pense que ça doit être possible pour les enseignants-chercheurs de faire plus, enfin de basculer en plein temps enseignement.
Comme vous l'avez, comme on l'a entendu tout à l'heure, en fait, la modulation des services est dans les décrets hein, qui régissent notre statut. C'est marqué explicitement que on ne peut pas faire moins que 64 heures d'enseignement. Et qu'on peut aller jusqu'à un service doublé. C'est marqué quelque part, c'est très peu appliqué pour les raisons qui ont été évoquées, hein, notamment la peur de l'arbitraire que pourrait susciter ce genre de mesures. Je voudrais dire quand même qu'on tient de plus en plus compte de l'enseignement dans la carrière des anciens chercheurs. Moi, j'étais directeur d'un UFR à Sorbonne Université, donc j'ai pu suivre pendant plusieurs années les concours pour la promotion professeur dans mon université. Et vraiment, sincèrement, les jurys ont toujours regardé avec sérieux le volet enseignement des candidatures. Comme je le dis très régulièrement, professeur des universités, ce n'est pas un directeur de recherche. Et ce qui va vraiment nous en distinguer, c'est la partie enseignement. Donc ce travail est fait. Et même, on peut aller un peu plus loin. Je dois le mentionner, puisqu'il y a 2-3 ans, à Aix-Marseille Université, ils ont ouvert un concours de professeurs dans lequel l'attendu prioritaire était pour le développement de nouvelles méthodes pédagogiques.
Et ça fait la parfaite transition pour une dernière pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour parler du futur de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Et c'était Célébration de Yom.
Et vous êtes toujours dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris 93.9. Aujourd'hui, nous questionnons ensemble le lien entre recherche et enseignement avec Juliette Fenoli et Édouard Kirlik. Et justement, professeur Kirlik, vous vous êtes donc longuement intéressé à cette question de la pédagogie au cours de votre carrière d'enseignant-chercheur et de la transmission du savoir. Alors, j'aimerais vous poser une question un peu ouverte, un peu courageuse peut-être, mais qu'est-ce que vous proposeriez aujourd'hui pour améliorer la qualité de l'enseignement à l'université ?
Oui, c'est une question vraiment... difficile. Voilà, parmi moi, les points qui me tiennent à cœur, je pense qu'il y a un travail nécessaire, au moins dans les sciences dures, peut-être que c'est moins vrai ailleurs, c'est possible, sur la progressivité de l'acquisition de l'autonomie chez les étudiants et étudiantes. Ça veut dire, en physique notamment, dans mon établissement, ce que je constate, c'est qu'il y a, à part les stages, on a à peu près les mêmes méthodes pédagogiques en L1 et en M1, donc pendant 4 années successives. Et je trouve que justement, ça prépare mal à des emplois futurs de chercheurs et de chercheuses, et plus généralement de tout métier de cadre scientifique. Parce que l'étudiant ne développe pas assez, me semble-t-il, avec ces modalités pédagogiques, son autonomie, ses propres réflexions pour être ultérieurement un scientifique accompli.
Donc quelque chose de plus graduel où on partirait...
Plus graduel, c'est-à-dire effectivement, en L1, on doit accompagner, hein, on sort juste du lycée, on doit beaucoup accompagner les étudiants, et petit à petit, en 4 ans, hein, se donner un programme où, eh bien, peut-être qu'on leur fait un peu moins de cours, peut-être qu'on leur propose plus de projets à travailler en autonomie, tout en les accompagnant, hein. C'est pas du tout se désengager ou de se désintéresser de ce qu'ils apprennent, de comment ils l'apprennent, mais introduire un peu plus de distance, qui devrait leur permettre, me semble-t-il, d'être un peu plus autonomes et actifs par eux-mêmes, au niveau M2, c'est-à-dire à la conclusion du master.
Je suis plutôt d'accord. Alors, je sais que... Je pense qu'en fait, au niveau licence, il est important de poser le socle des connaissances des étudiants, puis petit à petit les emmener vers une carrière de recherche si c'est ce qui les intéresse, donc au niveau master. Donc je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui permettrait d'améliorer ce processus de formation, mais à mon sens, il faudrait peut-être envisager que des professeurs plein temps, par exemple les PRAG, soient plus investis au niveau licence et que les enseignants-chercheurs interviennent plutôt au niveau master. Après, en ce qui concerne, la question était posée aussi de la qualité des enseignements. Alors j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'attentes au niveau des universités sur la qualité de leurs recherches, mais que finalement les universités ne sont pas toujours... Pas vraiment évalué sur la qualité des enseignements qui sont délivrés. Alors, bien sûr, les enseignants peuvent interroger, et c'est fait de manière systématique dans certaines universités, on peut interroger les étudiants sur les modules pour que ça soit retransmis aux enseignants et amélioré d'année en année. Mais disons que c'est pas une attente explicite des formations. Et au niveau, du coup, de la formation des enseignants-chercheurs, Beaucoup d'enseignants-chercheurs qui arrivent sur des postes de maître de conférence n'ont pas beaucoup enseigné avant de pratiquer devant des étudiants. Ça peut être impactant sur la qualité de leurs enseignements. Donc peut-être qu'il faudrait envisager, si on met des enseignants-chercheurs dès le stade licence, qu'ils aient une petite formation, alors pas au niveau d'un prof agrégé ou d'un prof certifié, mais une petite formation au moins pour amener les étudiants dans leur cours. En fait, généralement, j'ai l'impression que les enseignants-chercheurs qui n'ont pas passé l'agrégation ou le CAPES ont du mal à définir les prérequis et de se mettre au niveau des étudiants qui arrivent dans leur cours. Et qu'en fait, du coup, au niveau de la construction pédagogique, ça peut être impactant et ça peut aussi faire qu'ils vont moins bien transmettre les connaissances Alors, donc, du coup, ça c'est vraiment important pour le socle de connaissances niveau licence. Puisque après, au niveau master, ce socle de connaissances étant acquis, disons que les prérequis, les enseignants-chercheurs peuvent plus facilement se baser sur des prérequis de niveau licence pour construire leurs enseignements plus au niveau recherche.
Donc finalement, il faudrait, pour avoir une meilleure qualité d'enseignement, mieux évaluer les professeurs et mieux former les professeurs, donc ramener les maîtres de conférences et professeurs sur les bancs de l'école un peu plus, spécifiquement pour leur métier.
Alors je ne sais pas si c'est une évaluation des professeurs qu'il faut faire, mais...
Mais justement, cette formation a été mise en place quand même assez récemment, mais désormais, quand on est recruté maître de conférence, on a une obligation de formation. Je crois que c'est 32 heures la première année. Donc, auprès des services pédagogiques de l'université. Donc, ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, là encore, les situations peuvent être très différentes d'une discipline ou d'un établissement à l'autre. Mais la plupart du temps, dans les grandes universités, on est inséré au sein d'équipes pédagogiques. Donc, ce n'est pas une formation formelle, on va dire, mais on est en règle générale accompagné par les autres membres de l'équipe pédagogique qui peuvent nous aider justement à se saisir de ce qui est proposé aux étudiants, y compris en licence. Donc là encore, me semble-t-il, c'est plutôt un progrès que par rapport il y a une trentaine d'années où là, on était plus laissé en contact direct avec les étudiants sans aucune préparation. Donc malgré tout, ça a progressé. Peut-être pas suffisamment, mais ça a quand même évolué en quelques années.
Et ça nous rassure sur l'idée qu'on part effectivement dans la bonne direction. Donc peut-être que finalement, le futur de l'enseignement supérieur et de la recherche est déjà sur des rails auxquels on a envie de croire. En tout cas, nous, on s'approche déjà malheureusement de la fin de cette émission. Alors pour finir, d'abord, je voudrais vous poser une petite question un peu plus personnelle à chacun. Si vous n'aviez pas choisi ce parcours et ce métier d'enseignant-chercheur, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui ?
Alors moi, je pense que j'aurais été professeur de lycée ou en classe préparatoire. Voilà.
Une vraie vocation, donc.
Oui, j'étais plutôt attiré par la partie enseignement de mon métier. C'est assez rare parmi les anciens chercheurs, mais c'est ce qui m'attirait le plus.
Alors moi, je pense que je suis encore en questionnement sur vraiment quelle voie je vais choisir entre l'enseignement et la recherche. Après, bon, j'aurais pu faire un métier dans un domaine complètement différent, mais je pense que le côté transmission des connaissances, quels qu'ils soient, hein, parce que enfin, j'aime beaucoup aussi d'autres domaines, hein, l'art par exemple, ou les animaux, ou n'importe quoi. Enfin, il y a plein d'autres choses qui auraient pu m'intéresser pour ma carrière professionnelle, mais dans tous les cas, la transmission, c'est quelque chose que j'aime bien et que j'aurais sûrement valorisé quelle que soit ma carrière. Et maintenant, bon, comme je l'ai dit un petit peu au début, c'est vrai que là, du coup, dans mon poste actuel, j'ai un peu la double casquette enseignant et chercheur. Et en fait, j'aimerais bien tester le côté recherche 100% pour voir à quel point j'ai besoin de cette composante enseignement et si j'ai envie d'y revenir par la suite.
Peut-être donc avec un futur en contrat postdoctoral, en tout cas, on te le souhaite. En tout cas, c'est déjà la fin de Fréquence Recherche, l'émission qui décrypte la recherche et qui met en résonance les chercheurs et la société. Aujourd'hui, nous avons discuté recherche et enseignement. Un grand merci à Juliette Fenogli et au professeur Édouard Kirli qui nous ont fait l'honneur de venir ici parler au micro de Radio Campus Paris. Un merci aussi à Pierre-Yves Leraillier pour la réalisation et à Elissar Mokadim pour la préparation de cette émission. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fréquence Recherche. Alors, restez branchés.